Nous sommes tous deux maîtres de conférences à l'Université de Champagne-Ardenne, dans un laboratoire qui s'appelle le C2S, un laboratoire de psychologie. Parce que notre discipline, c'est la psychologie sociale. En ce qui me concerne, je ne sais pas si j'ai une grande difficulté pour parler aujourd'hui, mais si j'en ai une, c'est d'avoir travaillé un peu sur la notion d'acceptabilité. Pas dans le domaine du développement durable, mais dans le domaine des nouvelles technologies. Et notamment des aides à la conduite, et plus récemment du textile intelligent, qui a été expliqué un peu tout à l'heure. J'ai mené également une petite réflexion sur quel pourrait être l'apport de notre discipline à la psychologie sociale en particulier, dans la résolution ou la tentative de résolution de problèmes sociaux, quels qu'ils soient. Et donc, c'est sur ces deux points-là que mon propos portera. Ce qu'on peut entendre par acceptabilité sociale, et puis dans un troisième temps, une tentative de montrer comment on peut travailler en psychologie pour aider à résoudre un problème particulier. Ma collègue, pour vous donner un éclairage plus pointu sur des recherches liées au développement durable. Je laisse le soin de se présenter avant de commencer la communication.
Parlez bien
dans le micro après.
Merci Régis, merci Jérôme pour nous avoir invités. Je suis Gérard pour la belle conférence que vous nous avez présentée et qui fait parfaitement la transition avec notre propos. Alors oui, mes recherches s'inscrivent en psychologie sociale et environnementale. Je travaille surtout sur les représentations sociales des risques collectifs, des conduites de prévention de ces risques. Et j'ai mené cette recherche d'abord au sein d'un laboratoire CNRS qui était à l'Université Paris-5, Paris-4 maintenant, un laboratoire de psychologie environnementale, puis dans un laboratoire interdisciplinaire CNRS aussi à Aix-Marseille Université, un laboratoire qui regroupait des anthropologues, des sociologues, des économistes, des historiens. Voilà, et je vous parle de ce moment avec Régis, et je vous parle de ce laboratoire interdisciplinaire parce que c'est là qu'on a pu travailler finalement de la façon la plus approfondie qu'on a pu sur l'importance fondamentale de la distinction entre la réalité objective de questions comme l'environnement, comme le développement durable, et la réalité socio-cognitive, la perception, les représentations que les gens en avaient. Je vais y revenir un peu tout à l'heure. Voilà. Régis.
Oui. Nous avons donné un titre à notre communication, à savoir comment penser et mesurer l'acceptabilité sociale des politiques, des dispositifs de développement durable et des atouts de la psychologie sociale. Un premier problème, c'est que encore faudrait-il que l'on sache vraiment ce que l'on entend par politique de développement durable et les connaître. Et il est vrai que le grand public dont nous faisons partie ne connaît pas ces politiques. On n'a pas une bonne vue d'ensemble, on a des bribes de connaissances, des croyances, et donc des informations variées, diverses et homogènes. Donc là, c'est vraiment la première difficulté pour nous. Et donc, ils voient que les représentations présentent un certain nombre de faiblesses sur ce point-là. Et nous sommes contraints à avoir on aura un propos assez général, assez distant par rapport à la question du développement. Sur les atouts de notre discipline, la même chose, on sera vraiment des exhaustifs. On pointera quelques éléments qui nous semblent importants, mais pour longtemps, on aura probablement d'autres choses à dire. Donc le plan de la présentation sera le suivant, un plan en trois parties, comme c'est que vous avez été proposé de le faire. Donc une définition de la notion d'acceptabilité en général et une tentative de voir en quoi cette définition est transférable pour s'intéresser à des questions liées au développement durable. Quelques éléments empiriques de recherche sur une thématique particulière, un champ de recherche particulier, les représentations sociales. Donc c'est Andrea qui prendra en charge cette partie d'intervention. Et pour conclure, j'essaierai de discuter du fait que la notion d'acceptabilité sociale s'appréhende assez différemment selon le type d'intervention psychosociale qu'on déciderait de mettre en œuvre. Et pour essayer de favoriser la production de nouvelles pratiques au niveau des opérations. Deux grandes stratégies pourraient éventuellement se voir. Donc, le premier point, c'est la définition de l'acceptabilité sociale. Et le deuxième problème, c'est qu'en fait, ce n'est pas un concept de psychologie, l'acceptabilité sociale. C'est un concept qui est utilisé dans les recherches fondamentales. C'est un concept que l'on va plutôt trouver dans les recherches appliquées et qui nous est un peu imposé par les ingénieurs lorsqu'ils nous demandent de collaborer sur des recherches pluridisciplinaires. En soi, en même temps, c'est intéressant, mais c'est un concept explicatif pour François. L'expérience que j'ai montre que finalement c'est un concept qui est surtout utilisé dans des programmes pluridisciplinaires liés à l'adoption de nouvelles technologies, que ce soit les aides à la conduite, à la domicile, les puces électroniques, etc. Donc là, il faut qu'on se positionne par rapport à cette notion et qu'on essaye de voir comment on peut la comprendre du point de vue de notre discipline. Alors malgré tout, il existe plusieurs modèles. Que je ne présenterai pas en détail, je resterai sur un modèle très général. Il faut bien le comprendre, des intérêts particuliers, des centrations différentes selon les sous-disciplines de la psychologie, qui est plusieurs sous-disciplines, des points de vue ergonomiques ou centrés sur le fonctionnement cognitif, point de vue de psychologie sociale, évidemment, c'est ça qui est aujourd'hui, et point de vue encore plus macro en termes de psychologie des organisations, voire de psychologie économique. Probablement, les collègues en psychologie probablement des choses qui m'attirent. Et malgré tout, si on prend un peu de distance par rapport à ces modèles, on voit émerger deux distinctions importantes qui vont être un peu un fil rouge dans cette partie de la présentation. C'est une distinction entre ce qu'on pourrait appeler l'acceptabilité pratique et l'acceptabilité sociale, qui est la première distinction. À savoir qu'effectivement, la plupart des modèles quand même se centrent sur des préoccupations ergonomiques et cognitives, ce qui se comprend bien, puisque c'est une question avant tout d'ingénieur. Finalement, ces modèles supposent que l'acceptabilité pratique est déterminée par deux facteurs, et uniquement deux facteurs, de façon prépondérante. En s'appuyant sur ces deux facteurs, on serait capable de prédire l'usage de la nouvelle technologie. C'est l'utilité réelle ou plus souvent l'utilité perçue du dispositif, et son utilisabilité, la facilité avec laquelle on pourrait l'utiliser. Avec l'idée évidemment que un dispositif utilisé, c'est un dispositif qui demande peu d'efforts dans son maniement. Peu d'efforts pour apprendre à l'utiliser, peu d'efforts pour l'utiliser réellement, c'est assez efficient, puis peu d'efforts en termes de mémorisation. Donc, vraiment, concentration sur des aspects purement techniques et ergonomiques. La deuxième distinction dans les recherches qui peuvent être faites autour de cette notion d'acceptabilité liée au développement des nouvelles technologies, c'est la définition sur un continuum temporel, c'est-à-dire à quel moment on fait de la recherche sur l'acceptabilité. Avec trois temps possibles, mais c'est trois façons de travailler différentes. Un premier temps qui consiste à travailler sur ce qu'on appelle l'acceptabilité a priori, c'est-à-dire des recherches qui seraient faites en amont du développement technologique. L'objet n'existerait pas. Il n'existerait même pas à l'état de prototype, il existerait dans la tête de l'ingénieur et dans la tête de l'ingénieur. Donc l'idée, c'est de s'interroger sur les représentations subjectives et collectives que pourrait avoir le dispositif du point de vue de l'usager. C'est tant qu'on arrive à lui expliquer à quoi ressemblerait le dispositif, à quoi il pourrait servir, quelle serait sa fonction. La question souvent qui est posée, c'est quelles sont les habitudes, les normes, enfin les habitudes de comportement, les normes, les valeurs qui pourraient être compatibles avec l'usage du dispositif et quelles seront les habitudes, les normes, les comportements qui seraient incompatibles avec travailler sur la compatibilité des valeurs et des normes des collectives et individuelles serait un prérequis pour que les gens puissent être tentés d'utiliser le dispositif en question, quel qu'il soit. Donc recherche en amont. Deuxième temps de recherche qu'il peut y avoir, c'est le moment où le dispositif existe et donc peut être manipulé par l'utilisateur. On travaille donc sur son acceptation. Et donc là, on s'interroge sur son utilité et son utilisabilité réelle, mais également également sur les modifications de perception que cela engendre, que cet objet existe et qu'on puisse le décider. Pourquoi ça change la représentation de l'objet que l'on a? Et est-ce que les utilisateurs en arrivent à utiliser l'objet de la bonne façon, de la façon pensée par les ingénieurs, ou font des contournements quelconques? Et troisième temps de recherche, c'est le temps de la propriétation, c'est-à-dire essayer à partir du moment où le dispositif a été accepté, où l'utilisateur l'utilise au quotidien, en quoi il est intégré dans les comportements habituels de l'individu. Donc il apparaît que la notion d'acceptabilité renvoie à un certain nombre de variables qui pourraient permettre de prédire, d'expliquer, de comprendre le comportement des individus par rapport à un nouveau dispositif. Et alors, ce qui est vrai des nouvelles technologies, il y a également pour le développement durable, que en fait, ces trois temps de recherche, acceptabilité a priori, acceptation, appropriation, sont largement transposables à la question du développement durable et en tout cas des politiques qui pourraient être mises en œuvre. Donc finalement, une fois qu'on a perçu ces deux distinctions dans les modèles pointus qui peuvent être proposés par les collègues sous en ergonomie dans ce sujet politique, on se rend compte qu'on se retrouve dans un domaine extrêmement classique, extrêmement balisé en psychologie et sociale, à savoir la prédiction du comportement. Qu'est-ce qui peut nous permettre de prédire un comportement? Donc je vais vous proposer ou expliciter un modèle ultra classique en psychologie qui est même utilisé par d'autres personnes que les psychologues. Il a été popularisé. Et c'est sur la base de ce modèle que je vais créer la notion d'acceptabilité pour l'expliquer. Donc c'est le modèle du comportement planifié. Alors c'est une extension d'un modèle plus ancien, c'est la version finale de ce modèle. Donc l'idée, c'est de se donner un outil de prédiction d'un comportement effectif par rapport à un objet ou par rapport à une pratique. Le déterminant essentiel, c'est l'intention comportementale, donc le facteur dispositionnel conduisant à l'action. Donc c'est vraiment le construit central du modèle. Et, c'est parfois c'est même sa limite. Chercheurs qui utilisent ce modèle, souvent ça s'arrête à ce prédicteur-là sans mesurer le comportement effectif, en supposant que une fois que les gens ont l'intention d'utiliser quelque chose, le bureau du travail est fait et le comportement effectif la suivre, ça va de soi et ça sera automatique. On interrogera ça un peu à la fin de la présentation. Donc l'intention comportementale serait déterminée par deux construits qui sont l'attitude envers le comportement, donc attitude positive ou négative vis-à-vis du comportement. C'est bien l'attitude vis-à-vis du comportement, pas vis-à-vis de l'objet. C'est pas l'attitude par exemple par rapport au panneau solaire, mais c'est l'attitude que j'ai sur le fait d'acheter moi-même des panneaux solaires. Est-ce que ça aurait une utilité, une pertinence pour moi? À savoir que l'attitude est également déterminée par des facteurs plus lointains, qui sont les croyances comportementales et l'importance que revêt le fait de produire ces comportements. Donc les croyances comportementales sont très liées aux conséquences perçues, imaginées, que l'on a vis-à-vis des attentes que l'on a vis-à-vis de l'objet. Donc si on reste sur l'exemple du panneau solaire, c'est en quoi utiliser un panneau solaire réduit fortement, voire ne réduit pas fortement la consommation d'énergie. Quelle croyance j'ai par rapport à ça? Quelle valeur j'accorde à ce résultat? Quelle valeur j'accorde à cette conséquence? Parce que pour moi, il est important de réduire cette consommation en énergie, possible, j'entends le temps. Ou est-ce que c'est relativement secondaire dans mes préoccupations? Voilà, premier chemin causal qui peut mener à une attention comportementale et éventuellement à la production d'un comportement affectif. Deuxième prédicteur postulé dans le cadre de ce modèle qui fonctionne relativement bien, hein, c'est ce que l'on appelle la norme subjective. La norme subjective, en fait, renvoie tout simplement aux pressions sociales qui peuvent s'exercer sur l'individu, ou en tout cas les pressions sociales que l'individu peut percevoir quant à la production du comportement ciblé, et donc est déterminée par les croyances normatives qu'il a et la motivation qu'il aurait à se soumettre. Les croyances normatives, c'est simplement l'idée que fait partie d'un réseau social, et la question que peut se poser l'individu, c'est est-ce que les gens que je côtoie au quotidien, mes proches, ma famille, mes collègues, un groupe de référence quelconque, a une croyance forte dans l'utilité du dispositif, dans les conséquences positives du comportement, bref. Que se passe-t-il si moi je décide d'installer un panneau solaire? Comment je vais être vu par mon groupe d'appartenance ou par mon groupe de référence? Donc, c'est une pression à le faire ou une pression à éviter de le faire. C'est la même chose pour l'attitude envers le comportement, ces croyances normatives sont pondérées par la motivation plus ou moins forte que l'individu pourrait avoir à se soumettre. Dans la version initiale du modèle, qui portait un autre nom, c'est le détail, les choses s'arrêtaient là. Il y avait uniquement ces deux prédicteurs. Agen a retravaillé un peu sur le modèle et a rajouté un prédicteur important qui sont les croyances de contrôle et le contrôle comportemental perçu. Donc, qui renvoie simplement au fait que l'individu peut être amené à penser qu'il est facile, difficile de réaliser le comportement effectif. Les recherches montrent, quelle que soit la thématique de recherche, que ce soit dans le cadre du programme ou non, que ces croyances de contrôle impactent l'intention comportementale, mais impactent parfois directement, sans avoir à être médiatisé par l'intention comportementale, le comportement. Voilà, donc ça c'est vraiment un modèle qui a une place extrêmement importante en psychologie. Psychologie sociale, mais qui va au-delà, qui est parfois utilisé en économie, par exemple. L'idée, aujourd'hui, c'est d'en rester à ce modèle. C'est-à-dire qu'il existe des modèles plus précis qui visent à prédire l'usage de la technologie, mais finalement, ces modèles ne sont qu'une adaptation de celui-ci, une simplification, une réduction. Et si on veut s'intéresser aux questions liées au développement durable, il me semble que ces modèles n'apporteront pas grand-chose. Nous empêcherons, nous masquerons une partie de la réalité. On a décidé avec Andrea d'en rester à ce modèle en matière de comportement lié à des politiques de développement durable. Même si on sait qu'il en existe d'autres liés à l'acceptabilité, c'est davantage centré sur les modèles. Et à partir de là, en fait, c'est très simple, il suffit de redessiner les choses. Donc, l'acceptabilité sociale, ça, c'est pas un concept qui existe en recherche fondamentale, mais si on se centre sur ce modèle de recherche fondamentale, ici nous avons l'acceptabilité individuelle, sur laquelle se sont beaucoup les ergonomes. Ici nous avons l'acceptabilité sociale, donc c'est sur les groupes de référence, les groupes d'appartenance, et l'insertion des gens dans les réseaux sociaux qu'il faudrait travailler. En tout cas, c'est sur ces variables-là qu'il faut réfléchir, en prenant en compte évidemment les contraintes objectives et subjectives, les contraintes réelles qui peuvent exister et les fausses contraintes qui pourraient être perçues par les personnes lorsqu'on leur demande de produire un comportement. Alors, ce modèle en lui-même a été un peu appliqué à des questions liées au développement durable, notamment à la question des transports en commun, du recyclage, de la réduction d'énergie, etc. Je veux dire que j'oublie des choses, c'est pas grave. Donc avant de passer la parole à ma collègue pour qu'elle développe des exemples pratiques dans un champ de recherche particulier, j'aimerais lister quelques variables psychosociales, c'est ça qui nous intéresse, qu'il conviendrait de prendre en compte si il s'agit de prédire, d'expliquer, de comprendre, voire de promouvoir des politiques en matière de développement durable, quelles qu'elles soient. Encore une fois, nous n'avons pas connaissance de ces politiques, pas suffisamment fondamentales, probablement selon le type de politique, selon le type de collectivité, il faudrait regarder les variables qui sont plus précises. Certaines seraient pertinentes, d'autres ne le seraient pas. Donc, une première liste de variables qui serait pertinente dans tous les cas, c'est d'évaluer tout simplement le niveau de connaissance ou de familiarité que les individus pourraient avoir par rapport au comportement à mettre en œuvre, de mieux cerner les systèmes de croyances, de valeurs et les systèmes normatifs qui seraient impactés par une politique de développement durable et particulière, une fois qu'on connaît cette politique, si c'est sur les transports en commun, qu'est-ce qui est impacté, si c'est sur l'habitat, qu'est-ce qui est impacté, etc. Évaluer les contraintes qui s'exercent sur les individus et qui réduisent leur perception de contrôle, donc ça, ça me semble une variable fondamentale, cette perception de contrôle. Mieux comprendre comment les gens se représentent les risques environnementaux et leur proximité temporelle et spatiale, sachant que, évidemment, ce que j'aurais pu aborder tout à l'heure, je ne l'ai pas fait, la question de la représentation du temps est fondamentale en matière de développement durable. Il est probable que les individus éprouvent un certain nombre de difficultés à se représenter les conséquences futures de leur comportement actuel. Et il y a probablement beaucoup de choses à questionner sur à ce niveau-là. J'ai là-bas pour moi. Il faut le temps. Et il faudrait prendre en considération évidemment des variables différentielles. Il en existe un certain nombre. Donc liées aux prédispositions des individus. Ici, j'en donne quelques exemples, à savoir qu'effectivement, il a été montré dans la littérature, psychologie scientifique, que certains individus pouvaient avoir des préoccupations qui étaient très liées à la façon dont ils se représentent eux-mêmes, qui sont liées à leur concept de soi. Et c'est le cas de la question environnementale, qui intègrent ça dans leur concept de soi ou leur identité sociale. Il y a des gens qui se sentent plus ou moins proches de la nature, enfin, c'est une barrière qu'on peut mesurer. Alors, on la mesure sur la questionnaire, évidemment. Et finalement, pour faire un diagnostic sur l'état de ces systèmes de croyances, de valeurs, la façon dont les gens perçoivent le contrôle qu'ils peuvent avoir sur les comportements à mettre en œuvre, etc., il existe en psychologie un champ de recherche particulier, qui est le champ des représentations sociales. Donc on pourrait se servir comme un outil diagnostique beaucoup plus précis, beaucoup plus fouillé que des questionnaires classiques, en fait, qui permet de structurer des questionnements de façon extrêmement, extrêmement précise, et dans lequel il a été montré que la perception des risques et l'implication personnelle des individus, qui fait écho aux variables différentielles que je viens de définir, était fondamentale et structurée. Sur ce point, je cède la parole à la
Merci, Régis. Alors, je voudrais commencer par m'excuser pour mon accent, en espérant que je restais intelligible. Alors, vous avez en face de vous des psychologues, alors vous attendez un peu la question que traduit et que signifie le développement durable. Est-ce que ça masque pas finalement l'angoisse de mort? Alors, je vous rassure, notre petite psychanalyse s'arrête là. Mais quand même, blague à part, la question reste. Est-ce qu'on peut limiter les catastrophes qui peuvent nous arriver en tant qu'humains dans l'environnement où nous vivons? Alors, mon intervention va aborder cette question à partir de recherches menées en psychologie sociale et environnementale, notamment sur des risques collectifs, alors des séismes, des questions de pollution de l'eau. Et des questions de santé et environnement. Alors, toutes ces recherches sont nées pour moi d'une interrogation personnelle. En tant que survivante d'un séisme qui a fait 1500 morts à Bucarest il y a quelque temps, j'ai été interpellée par le degré réduit de préparation de cette population-là qui vit dans une région à sismicité relativement forte. Les séismes s'y succèdent tous les 30 à 50 ans. Et des lois existent, hein, des lois de protection parasismique des immeubles. Et pourtant, les gens expriment une réticence invraisemblable pour adopter des conduites de prévention dès lors qu'ils demandent des démarches collectives. Alors, comment surmonter cette réticence? C'était ça ma question de départ. Et si on reformule ça d'une façon abordable par la psychologie sociale, vous allez dire qu'on s'est concerté avec Jérôme, mais non, ce n'est pas vrai. La question devient comment articuler décision politique et acceptabilité, sachant que les autorités gèrent la question sur la base d'évaluation experte, mais au nom du sens commun. Alors, si on veut donc envisager les questions d'environnement, de développement durable dans leurs aspects à la fois collectifs et subjectifs, et qu'on s'intéresse forcément aux conduites qui sont liées à eux, alors le regard de la psychologie sociale devient intéressant. Et on peut reformuler la question de la façon suivante: est-ce qu'on peut aider les psychologues sociaux à favoriser l'adoption de conduites collectives de prévention orientées vers le développement durable? Voilà. Alors, arrivé là, je voudrais revenir sur la distinction que je vous ai proposée tout à l'heure entre la réalité objective et la réalité socio-cognitive des objets sur lesquels on travaille quand on s'intéresse à ces questions-là. Alors, pour nous, le développement durable, l'environnement, les risques collectifs sont des objets socialement investis. Alors, c'est un discours qu'on a beaucoup de mal à faire passer en psychologie et que souvent les sociologues comprennent beaucoup plus facilement. Alors, pourquoi ils sont socialement investis? Parce que l'humain, il vit, il y agit, et puis ces interventions ont des conséquences. Et les individus portent des jugements sur ces conséquences. Ces jugements vont déboucher sur des actions. Alors, notre idée centrale, si vous ne deviez retenir qu'une de cette intervention, est la suivante. Il est essentiel de distinguer la réalité objective d'un objet, l'environnement, le développement durable, les politiques et les dispositifs liés à lui, et puis le versant socio-cognitif. Et c'est ce dernier qui est le focus de la psychologie sociale, et notre hypothèse, vous l'avez déjà compris, c'est que c'est là que nous allons explorer la question de l'acceptabilité. Alors, comment distinguer la réalité objective et le versant socio-cognitif d'un objet? Pour cela, je vais vous proposer de partir d'un exemple très simple, d'un phénomène naturel, qui n'a, à première vue, rien de social, disons, un séisme. C'est un phénomène naturel, il a des critères de mesure objectifs, certains ici les connaissent mieux que moi, la magnitude, l'intensité, la probabilité, et puis le risque sismique a même, comme tout risque, une définition mathématique. C'est la probabilité qu'un événement survienne dans un système qui est caractérisé par une certaine vulnérabilité. Alors tout cela est très clair si nous étions des êtres rationnels. Mais le sommes-nous? Ou plutôt, notre rationalité était une rationalité scientifique. Comment le risque est-il pensé par le sens commun? Comment les gens pensent-ils leur rapport à ce risque? Qu'est-ce qui fait qu'on agit ou qu'on s'abstient d'agir pour le réduire? Comment les gens basculent-ils de la réaction individuelle, réflexe parfois, à la prévention collective? Alors vous voyez, quand on pose ces questions, on comprend que le risque, même un risque lié à un aléa naturel, hein, comme le séisme, est certes un phénomène naturel, mais aussi un phénomène social. Et c'est là qu'intervient l'ancrage de notre approche de la pensée du sens commun. Le développement durable, l'environnement, sont des objets socio-environnementaux, l'expression n'est pas de moi, elle appartient à un sociologue qui s'appelle Bernard Picot. Ce sont des objets de sens commun, des objets de représentation sociale. Alors, qu'est-ce que la pensée de sens commun ou la pensée sociale? Alors, c'est une expression qui désigne à la fois la spécificité de la pensée quand elle prend pour objet des phénomènes sociaux et la détermination qu'on pense constitutive de ces pensées par des facteurs sociaux. À la différence de la pensée scientifique, cette forme de pensée est déterminée par le contexte social des individus, dont on, par exemple, Régis l'anticipait un peu tout à l'heure, sa détermination par leur implication par rapport à un objet. Alors, c'est une forme de pensée pratique qui, si elle manque, il errait de validité scientifique, a en revanche une validité sociale fondée par son utilité sociale. C'est-à-dire qu'elle permet le maintien et le renforcement des liens entre les membres d'un ensemble social, d'un groupe, et à la fois leur distinction des autres. Alors, vous voyez que là, l'intérêt social n'est pas du tout l'autonomie. Au contraire, l'intérêt social demande le maintien du lien, demande le renforcement du lien. Et pourquoi ? Alors, quand on étudie la pensée sociale, on s'attache en fait à comprendre pourquoi et comment les groupes sociaux construisent collectivement des visions de leur environnement qui vont ensuite peser sur leur mode de raisonnement. Alors, quand on travaille dans cette perspective, on pense que les élaborations collectives de pensée sont déterminées par la position sociale et culturelle des individus. Vous voyez qu'il n'est plus du tout ici question de rationalité scientifique, sinon de logique sociale. Et si on s'intéresse à l'acceptabilité du point de vue du sens commun, c'est bien ces logiques-là qui lui donnent ses raisons. Alors, qu'est-ce qu'une représentation sociale ? C'est une façon de voir qui est localement, c'est-à-dire par un groupe, et temporairement partagée, c'est-à-dire qu'elle peut évoluer, et qui permet l'appropriation cognitive, c'est-à-dire de comprendre un aspect du monde, et qui guide l'action liée à lui. Alors, voyez, de ce point de vue, définir l'acceptabilité sociale, c'est très simple. Ce qui contredit les éléments centraux de la représentation, c'est-à-dire les représentations qui sont consensuelles pour un groupe, les éléments qui donnent sens à la représentation, les éléments qui la structurent, qui l'organisent. Alors, c'est simple, tout ce qui met en cause ces éléments-là, c'est inacceptable. Mais, bon, c'est plus subtil que ça. Les représentations sociales, on vient de voir, sont des guides pour l'action. Et une observation importante est à faire ici. Les représentations, c'est vrai, elles guident les pratiques, mais les pratiques qui les confirment. D'autre part, seules les pratiques qui les infirment sont éventuellement susceptibles de les transformer. Alors, si l'on pense qu'une augmentation de l'acceptabilité passe par l'évolution des mentalités et des représentations, on s'intéresse naturellement aux conditions de leur transformation. Et là, on pense encore, vous l'avez compris avec Régis, encore trop souvent que pour changer de mentalité, il suffit d'expliquer, de persuader, voire de contraindre. Or, toutes les recherches montrent que ce n'est pas ainsi que les représentations évoluent. Ce sont des systèmes de croyances particulièrement stables qu'on ne corrige pas par des interventions sur les attitudes, qu'on ne corrige pas par des campagnes de communication. Et alors, on le tient de Durkheim, donc il tient quand même d'assez fiable, et d'assez ancien. Il nous dit « Seuls les éléments d'une suffisante gravité réussissent à affecter l'assiette mentale de la société. » En d'autres termes, les représentations sociales se transforment lorsque les groupes sociaux doivent faire face à des situations nouvelles qui remettent en cause leurs habitudes et ne leur permettent plus d'agir comme par le passé. Alors, survenue de maladies nouvelles, de catastrophes naturelles, évolution radicale des techniques. Et les travaux montrent que ce processus de transformation des représentations par des pratiques nouvelles, contradictoires au regard de la représentation, ne s'effectue qu'à certaines conditions. Pour qu'une représentation sociale soit modifiée radicalement, c'est-à-dire de façon majeure dans sa structure, et non pas seulement superficiellement, de façon périphérique, il faut en effet, un, que la situation nouvelle, les événements soient suffisamment impliquants pour les individus, et puis que la situation nouvelle soit perçue comme irréversible. La première condition fait référence à la distance de notre population par rapport à l'objet.
Est-ce que les changements survenus affectent-ils plus ou moins directement les individus? Sont-ils importants pour eux? Les personnes estiment-elles avoir prise sur la situation considérée? Ces trois questions renvoient spécifiquement aux composantes de l'implication personnelle, je vais y revenir. La seconde question renvoie à la perception du changement. Les individus perçoivent-ils la nouvelle situation comme passagère? Pense-t-il qu'un retour à la situation antérieure et donc aux pratiques anciennes est envisageable? Dans les pratiques anciennes, on peut penser à la dépense énergétique démesurée, tout comme à toutes ces pratiques qui sont mises en cause par la pensée sur le développement durable. Alors enfin, l'évolution des représentations est un processus qui a lieu sur le temps historique, le temps des sociétés, et non sur le temps psychologique, celui de l'individu. Ça aussi, on a un peu de mal à le faire passer avec nos collègues psychologues, mais je crois qu'avec nos collègues sociologues, on est assez d'accord là-dessus. J'ai pu comprendre. Alors, vous voyez, il y a quand même un côté paradoxal à la question du développement durable et de l'acceptabilité, et vous le mettiez en évidence tout à l'heure. C'est urgent, et à la fois, c'est une question de génération. Alors, qu'est-ce que c'est cette implication personnelle? Alors, nous, on pense que c'est une variable explicative majeure de la pensée sociale. C'est, si vous voulez, comme un référentiel subjectif, mais socialement déterminé, qui traduit le rapport d'un individu à l'objet. Alors, ce rapport est historiquement déterminé, bien sûr, et il se trouve médiatisé par les pratiques. Et si vous voulez, le modèle qu'on utilise, c'est un modèle qui est très simple à exposer. Ce référentiel de l'application personnelle est défini par trois dimensions indépendantes. Il y a implication maximum relativement à un objet quand je me sens concerné, que l'affaire est d'importance et que j'y peux quelque chose. L'implication décroît quand l'intensité décroît sur au moins une de ces dimensions. Et tout cela se mesure à partir d'échelles permettant de déterminer ces trois coordonnées qu'on appelle valorisation de l'objet, identification personnelle et puis capacité de perçu d'action. Alors bien sûr, l'individu ne fait pas ses jugements indépendamment de son contexte social et ses jugements ne sont pas objectifs. Ils dépendent de l'appartenance de l'individu dans le groupe, de sa position économique et symbolique, de ses relations immédiates avec sa communauté. En ce sens, l'implication personnelle est un facteur différenciateur, mais une variable différenciatrice, du tissu social. Alors, qui est l'usager? Qui est l'usager? Le développement durable est-il pour lui important ou bien une question futile? Qui est le citoyen concerné par l'acceptabilité des mesures sur le développement durable? Se sent-il concerné? Qui est ce citoyen? Est-ce le citoyen qui est pensé par le pouvoir, par les autorités? Est-ce le citoyen acteur? Est-ce le citoyen penseur? À voir. Qui est l'impensé habitant du développement de l'habitat durable? Est-ce qu'il y peut quelque chose? Est-ce qu'il perçoit qu'il peut quelque chose? Vous voyez, ce facteur permet de. L'implication personnelle permet de différencier des publics à l'intérieur même de leur quartier de résidence, à l'intérieur de leur catégorie socio-confessionnelle, de leurs idéologies. Et bien sûr, on se pose la question des relais, des sociabilités, des guides d'opinion qui marchent pour les gens habitant le même quartier, ayant les mêmes idéologies, mais qui sont impliqués différemment. Mais ce sont des questions centrales quand on veut mobiliser le canal adéquat pour toucher des publics différents en termes d'acceptabilité. Alors pourquoi? Parce que pourquoi on peut le faire avec ce facteur-là, l'implication personnelle? Parce que sa fonction principale, en fait, c'est de distribuer en toutes circonstances l'important et le futile, le permis et l'interdit, entre ce qui est convenable et ce qui est inconvenable. Et la capacité à faire ces distinctions est proprement vitale en ce qu'elle permet la décision, commande, l'engagement comme l'abandon. Alors, je vais venir maintenant à quelques résultats que Régis anticipait. Alors, trois types de résultats sont les effets de l'implication personnelle, donc obtenus dans les études en jeu environnemental sur les objets que je vous ai proposés tout à l'heure, le séisme, la pollution et la santé. Le résultat empirique le plus important, obtenu dans toutes les études menées jusqu'ici, montre que lorsqu'il y a implication, la structure des représentations est enrichie. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les individus qui sont impliqués et qui ont des pratiques en lien avec un objet élaborent une représentation sociale plus structurée, plus fonctionnelle, c'est-à-dire plus robuste dans la transcription des comportements. Elle permet de reconnaître et d'utiliser une information plus diversifiée, notamment à finalité pratique, par exemple dans les conduites collectives de prévention. Alors, est-ce que cette représentation plus robuste aura-t-elle un effet sur l'acceptabilité? C'est une hypothèse. Le deuxième résultat remarquable concerne le fait que les effets de l'implication, aussi grands soient-ils, sont conditionnés par l'existence de pratiques relatives à l'objet. Si en présence des pratiques, l'implication permet de mobiliser une représentation plus robuste, à orientation plus pratique, capable de prescrire des comportements, en l'absence de ces pratiques, elle conduit à l'abandon de formes plus rationnelles de pensée sociale, comme la représentation, au profit de formes qui sont situées en amont de la rationalité, des formes de pensée qui sont plus tranchantes, plus affectives, largement collectives, profondément mobilisatrices, mais qui sont dépourvues de prescriptions comportementales concrètes. Ce sont des formes de pensée collective qui laissent les gens très vulnérables à l'émergence de leaders circonstanciels qui peuvent les orientations de conduite. Alors, le troisième type de résultat concerne les effets de l'implication personnelle sur les comportements, sur l'engagement dans une conduite collective de réduction de risque. Et là, on a trouvé que les participants qui s'engagent le plus dans ce type de conduite sont ceux qui sont impliqués. C'est-à-dire les participants qui ont le sentiment d'avoir une prise sur l'objet et qui sont membres d'associations, c'est-à-dire des participants qui sont inscrits dans des sociabilités fortes. Et là aussi, on peut se poser la question, voilà, cette hypothèse, quel relais de sociabilité, vous parlez tout à l'heure de réseaux qui existent depuis toujours, en effet. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quels sont les relais de sociabilité Est-ce que ce sont les associations, est-ce que ce sont les guides d'opinion qui peuvent influencer l'acceptabilité auprès de publics spécifiques? On passe la parole à Régis. Merci.
Donc on arrive à la fin de notre présentation, en tout cas au troisième mouvement, où je voudrais faire une ouverture. Enfin, j'ai perdu le retour sur la note. Ce que nous avons présenté jusqu'à maintenant, en fait, si on devait situer ça dans le cadre d'une intervention psychosociale, je reviens à des choses pragmatiques, c'est que le premier temps, en fait, d'une intervention. C'est-à-dire la phase diagnostique où on cherche à évaluer un problème. Donc, évidemment, il convient d'identifier, de définir précisément. Donc c'est pourquoi aujourd'hui on est resté à un stade extrêmement général, parce que c'est pas de quelle politique exactement on parle. Et évaluer un problème, donc c'est identifier les bonnes variables. On a listé déjà certaines, on a développé notamment l'application. Mais ça ne suffit pas. À un moment donné, si tant est que le problème existe réellement, qu'il convient de résoudre et que l'on aurait des solutions adaptées et non questionnables éthiquement, il faudrait développer un programme pour accompagner les gens sur la réalisation la production de ces comportements, donc produire un protocole, un outil, et visant à modifier les pratiques. Et surtout, tester l'efficacité de ce protocole, de cette démarche, former les personnes, les professionnels aptes à accompagner le changement. Bref, c'est une logique assez globale, l'intervention. vient simplement redéfinir les problèmes, les identifier précisément, identifier les bonnes idées. À vrai dire, en psychologie, on a tout ce qu'il faut pour le faire. Il s'agit simplement, c'est un problème de mesure à la base, c'est-à-dire se donner les moyens de mesurer un phénomène quel qu'il soit, donc ici les effets d'une politique, donc quelles seraient toutes ses conséquences pratiques pour les individus, et définir le bon niveau de spécificité, parce qu'évidemment, un comportement ne peut être prédit qu'à une spécificité, enfin un comportement particulier, précis, ne peut être prédit que sur la base de l'identification des prédicteurs tout aussi précis. Si le comportement que l'on veut mettre en place, que l'on veut changer, c'est accepter des nouvelles taxes, faire des économies d'énergie, promouvoir davantage de recyclage, que les gens en viennent à mettre aux normes leur habitat, enfin aux normes éco-environnementales, leur habitat, donc c'est un comportement extrêmement, extrêmement précis. Ça ne marchera jamais si on se cible sur des producteurs abstraits, généraux, par exemple aimer la nature. Il faut se centrer à chaque fois, ou même au niveau de spécificité visée par le comportement. Mais c'est probablement simplement un problème de mesure, et c'est un problème de mesure. On y est confronté tout le temps, quelle que soit la thématique de recherche en psychologie. Les outils dont on dispose, c'est des outils que l'on partage avec d'autres collègues dans d'autres disciplines. Après, on les utilise peut-être un peu différemment, les structures un peu différemment, donc c'est les études de cas, l'observation, l'entretien et le questionnaire. Voilà. Mais ces outils ont leurs limites, c'est-à-dire que s'ils ne peuvent, ils n'ont leur utilité que dans une première phase, qui est la phase évaluative, qui consiste à évaluer les bonnes variables. Après, ces outils ne sont plus utiles. Donc ensuite, c'est simplement une capacité à imaginer et à transférer ces connaissances fondamentales, une fois qu'on a identifié les bonnes variables dans des propositions concrètes, s'inscrire dans des logiques pluridisciplinaires pour pouvoir analyser le contexte d'intervention et les contraintes qui pourraient se poser. Donc ça peut être évidemment des contraintes pratiques, des contraintes éthiques, des contraintes juridiques, économiques. Évidemment, là, il faut collaborer avec les collègues pertinents pour circonscrire ces contraintes et voir comment on va pouvoir tenter de modifier les usages, les comportements, etc. Et il s'agit de tester une solution ici vient une autre méthodologie dont on dispose en psychologie, qui est l'expérimentation, qui vise à administrer la preuve de la validité d'une évaluation que l'on aurait pu faire, et surtout à administrer la preuve de l'efficacité d'une intervention réalisée. Ce que c'est qu'une expérimentation, ça consiste simplement à construire un protocole et à le comparer, comparer son efficacité statistiquement à un groupe contrôle dépourvu du protocole où on n'aurait pas changé les pratiques. Donc il y a cette préoccupation constante lorsque l'on en vient à travailler réellement pour essayer de modifier l'état d'un problème ou tenter de le résoudre, d'administrer la preuve de l'efficacité de notre intervention. Et se pose donc la question de la sélection des variables. Et là, il faut en revenir à un fonctionnement assez pragmatique. Dans la liste des variables pertinentes pour expliquer quelque chose, toutes ne vont pas pouvoir être modifiées, on ne va pas pouvoir agir sur toutes les variables à la fois. Certaines même sont totalement non modifiables. Pour définir un protocole d'intervention, il faut donc croiser deux critères, c'est le caractère plus ou moins modifiable de ces variables et la taille de l'effet escompté. Quand je parle de la taille de l'effet, c'est l'effet statistique, c'est la différence entre un groupe expérimental et un groupe contrôle, peut être plus ou moins forte, et il existe donc des analyses ou des méta-analyses statistiques qui renseignent sur la force d'un effet, sur son caractère robuste, durable. Croisant ces deux critères, on peut sélectionner une liste de variables qui n'est toujours pas exhaustive. Elle a grandi depuis tout à l'heure, mais elle n'est toujours pas exhaustive. On en a détaillé quelques-unes, donc les connaissances, les croyances, le contrôle perçu, les valeurs, etc. D'autres, nous ne les avons pas présentées ou détaillées. C'est par exemple l'inférence de responsabilité, évidemment, quelque chose de fondamental en matière de politique sur le développement durable, c'est-à-dire que est-ce que le citoyen se considère comme responsable des soucis environnementaux ou il perçoit ou bien faire cette responsabilité à d'autres, à des institutions, à des groupes industriels, etc. Évidemment, ça impacte directement son intention de gérer. S'il se considère comme non responsable et en plus il pense ne pas avoir le contrôle de ce qu'il va faire et une action qui n'aura aucune conséquence à l'échelle sociale, évidemment, les choses s'arrêteront. Donc il faut croiser cela et voilà, une fois qu'on a sélectionné les variables pertinentes par rapport à un problème, finalement, prendre des variables qui nous semblent fortement modifiables ou à défaut modérément modifiables et celles pour lesquelles on escompte un effet important. C'est vraiment une approche très, très pragmatique. Mais encore une fois, si je ne renseigne pas davantage ce tableau, c'est parce que je ne sais pas de quelle politique de développement durable on parle. Après se cibler. Et à partir de là, une fois qu'on a ciblé les variables, il faut également cibler la population, c'est-à-dire est-ce que c'est le citoyen, est-ce que c'est les institutions, est-ce que c'est. Quels sont les acteurs, est-ce que c'est les décideurs, auprès de qui on a-t-il d'intervenir. Évidemment, il faut choisir une stratégie, une méthode, et c'est là que finalement deux types d'interventions pourraient avoir lieu. Une intervention, un type d'intervention, c'est la dernière chose que j'ai à dire. 1 minute 30 maximum. Le premier type d'intervention, c'est quelque chose de très rationnel, très classique, c'est de passer par la communication persuasive. Faire des campagnes de communication, vous savez que des choses qui marchent plus ou moins bien, vous appelez la peur par exemple. Bref, on a un certain nombre de connaissances là-dessus. En supposant que ces communications persuasives, si elles sont bien faites, soit qu'elles soient bien faites, impacte la sphère cognitive, donc soit au niveau des attitudes, soit plus profondément au niveau des représentations sociales. Donc il y a des recherches là-dessus, ça fonctionne assez bien, et l'implicite, évidemment, c'est qu'une fois que les gens ont changé d'attitude, une fois que les représentations sociales ont bougé, ça devrait se traduire par des comportements de façon automatique. Et c'est là que ça ne va plus du tout, à savoir que le lien entre attitude et représentation est loin d'être systématique, la logique des comportements, la logique de la pensée sociale n'est pas tout à fait la même. Et souvent, on se heurte à ce problème. Une autre solution est de passer par des techniques que certains pourraient considérer comme des techniques de manipulation, qui s'appellent dans la littérature psychologie sociale des techniques de soumission sans pression, qui consistent à obtenir directement le comportement. On ne passe pas par la sphère cognitive, on obtient directement le comportement. C'est relativement facile à faire. Et c'est assez fréquemment fait à l'échelle de l'usager, vraiment ce qu'on pourrait le faire à l'échelle hiérarchique plus élevée. Ça marche d'autant mieux que les gens pensent réaliser le comportement de façon libre. C'est la fameuse déclaration de liberté, c'est-à-dire que finalement, tout le monde a une attitude aujourd'hui, c'était pas tout à fait le cas il y a encore quelques années, mais aujourd'hui tout le monde a plus ou moins une attitude positive à l'égard de l'environnement. Autrement dit, les gens sont prêts à faire des actes pro-environnementaux, c'est pas un problème, ils ne le font pas. Mais on peut amener par des techniques comportementales, les amener à produire un premier comportement qui peut en annoncer d'autres, sous réserve qu'ils ont l'impression que ce comportement n'est explicable que de façon interne, c'est eux qui l'ont réalisé, etc. Donc plus le sentiment de liberté est grand, même si c'est un sentiment de liberté fictif, plus la possibilité que les gens rentrent dans un cours d'action et produisent des comportements est forte. Donc ça, ce sont des techniques qui marchent relativement bien et qui, in fine, infèrent par un processus de rationalisation la sphère cognitive. Donc deux stratégies, deux méthodes différentes qui, par rapport à la question de l'acceptabilité sociale, évidemment, la place à un moment très différent. C'est-à-dire que si on choisit le modèle très rationnel, ne marche pas systématiquement. Évidemment, il faut mesurer l'acceptabilité sociale en amont, voire éventuellement ce que j'appelle l'acceptabilité sociale a priori tout à l'heure, éventuellement l'acceptation. Et si on considère qu'on sera plus efficace en passant par des techniques de soumission sans pression, la question de l'acceptabilité devient la question de l'appropriation, c'est-à-dire comment faire durer ses effets. C'est-à-dire, évidemment, il y a un certain nombre de recherches qui marchent bien en soumission sans pression, mais souvent c'est des effets à court terme. Donc la vraie question de recherche qui nous concerne, c'est comment maintenir ces comportements qui se reproduisent d'eux-mêmes. Et donc là, en termes d'acceptabilité, c'est clairement la question de la compréhension dont il est question. Voilà,